Iowa, Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkpatine depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir, bien évidemment, de la Coupe du monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Début compliqué et mitigé pour les représentants africains. Nous évoquerons aussi les débuts réussis par contre de Lionel Messi ici en MLS. Et pour son premier match, la star argentine a offert la victoire à l'Inter Miami. Sur le marché des transferts, le temps des négociations a débuté pour Kylian Mbappé. Direction donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour commencer. Le mondial féminin a débuté la semaine dernière. 32 équipes sont en lice pour succéder aux États-Unis champions en titre. Fortune diverse pour les quatre représentants africains. La dernière sortie en date, celle du Maroc dans le groupe H, les Lions de l'Atlas ont été laminés par l'Allemagne, vice-championne d'Europe 2022, 6-0, portée par leur attaquante, star Alexandra Popp, qui a inscrit un doublé. Les Allemands ont écrasé donc le Maroc dans un match, il faut le dire, à sens unique. Le coach du Maroc, le technicien français Rinal Pedro, veut vite oublier ce match.
Il faut rester concentré, il faut rester focus sur la compétition, il y a encore deux matchs. Notre objectif, c'est bien sûr de le plus rapidement possible retourner au travail, bien sûr avec l'objectif de montrer aux filles ce qui n'a pas été, ce qui nous a manqué, voilà, pour qu'on prépare ce deuxième match contre la Corée, que aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une équipe en face de nous qui était largement supérieure.
Rinal Pedro, coach du Maroc. Grâce à cette victoire, donc, les Allemands prennent la tête du groupe H et renforcent donc plus que jamais leur statut de favorite dans cette Coupe du Monde. Pour Amine Birouk, c'est seulement le score qui est dur à avaler, sinon les Allemands partaient déjà supérieurs sur le papier.
La confrontation avec l'Allemagne avait un double aspect symbolique. Tout d'abord, c'était le premier match d'une sélection marocaine féminine en phase finale Coupe du Monde, d'un représentant du monde arabe. Et puis, 53 ans plus tôt, le Maroc affrontait l'Allemagne pour sa première sortie en phase finale de Coupe du Monde masculine. À la différence près que les hommes s'étaient mieux comportés, résistant héroïquement à la grande Mannschaft et ne s'inclinant que sur le score de 2-1. Ce soir à Melbourne, il y a eu un gros coup de massue avec une équipe marocaine qui a subi l'ascendant, qui a subi les coups de boutoir d'une équipe allemande, mieux en jambes physiquement, plus expérimentée, qui a appuyé là où ça faisait mal à chaque fois, et qui a su profiter cash de toutes les erreurs, de toutes les fébrilités, de toutes les défaillances de l'équipe du Maroc ce soir. La gardienne est responsable pour au moins 4 buts, Khadija Al-Michi a été très fébrile, la défense tout autant. Et sur les rares coups que l'équipe du Maroc a pu jouer, il y a eu très peu de danger, hormis peut-être un but refusé pour un léger hors-jeu qui aurait pu, en tout cas, donner un maigre lot de consolation à ces Lions de l'Atlas qui ont débarqué à la Coupe du Monde avec la volonté d'apprendre. Et l'apprentissage, la première leçon a été très dure. Elle va être dure à assimiler, à digérer. Il va falloir maintenant se fixer d'autres objectifs plus raisonnables. Tout d'abord, faire meilleure figure contre la Corée du Sud puis la Colombie. Pourquoi pas gagner en ambition si jamais, lors du prochain match, l'équipe du Maroc arrive à marquer, arrive à réussir un premier point. Il faut se dire que le chantier qui a été fixé par la Fédération marocaine de football est de faire progresser le football féminin. Et d'une façon ou d'une autre, ce chantier commençait par une qualification à la Coupe du Monde, par une faire bonne figure lors de la CAN. Et aujourd'hui, il va falloir continuer à avancer, à travailler, à labourer et se dire que ce n'est que le début d'un très long cheminement qui pourrait mener le football féminin, la sélection féminine, vers d'autres horizons comme les hommes à partir de 1970. La leçon est dure à digérer. Il va falloir que mentalement ces jeunes dames puissent se relever de ces coups de massue d'une équipe allemande qui n'a jamais lâché le morceau pendant la rencontre et qui a su montrer la différence entre un pays qui a participé aux 9 éditions de la Coupe du Monde féminine, qui en a gagné 2, qui vient d'être finaliste à l'Euro, et une sélection marocaine qui effectuait ses premiers pas à ce niveau-là.
Toujours pour les derniers résultats de ce lundi, les Brésiliens ont disposé du Panama 4-0. Le Brésil prend seul donc la tête du groupe F, 2 points devant la France après son nul bien sûr dimanche face à la Jamaïque, 0 but partout. L'Italien a peiné pour s'imposer face à l'Argentine 1-0, sauvé par un but inscrit en toute fin de match par Cristiana Girelli de la tête donc à la 87e. Alors Jules, c'est un apprentissage douloureux pour les Marocaines.
Oui, bien sûr, c'est un apprentissage douloureux, d'autant plus que l'Afrique jusque-là et ces dernières années avait fait très bonne figure. On a vu dans un passé un peu moins récent la Guinée équatoriale et le Nigeria défendre les couleurs de l'Afrique grâce au fait qu'il y a plein de joueurs professionnels dans ces équipes. Il y avait plein de joueuses professionnelles et la Guinée équatoriale qui profitait de beaucoup de binationaux et les Nigériens qui avaient plein de joueurs dans les grands championnats mondiaux. C'est le cas également pour le Cameroun et le Nigeria qui ont enchaîné par la suite, parce que dans ces compétitions, il faut avoir des joueuses qui se frottent au haut de gamme. Il y a une très grande différence de niveau entre les filles. Donc en faisant cet élargissement qui a fait rentrer en quelque sorte les seconds couteaux de certaines zones, il y a forcément une Coupe du Monde à deux vitesses que nous avons. Dans un premier temps, les équipes éliminent d'abord ceux qui sont venus apprendre et dans un second temps, on rentre dans le vif du sujet. Je rappellerai par exemple que le Nigeria et le Cameroun nous avaient mis à un niveau récent très important, puisque les deux dernières Coupes du Monde qui sont jouées au Canada et en France, les deux équipes étaient au second tour. Bon, donc c'est dû à ces arguments que je viens d'avancer. Donc réellement, les Africains doivent savoir maintenant que la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la phase préliminaire, doit être jouée au sérieux en sachant qu'il y a en perspective la représentation de l'Afrique. Les Marocaines sont en grand progrès et elles vont sûrement trouver des adversaires plus abordables, moins physiques, ce qu'elles ne sont pas, ce qui leur a coûté cher contre l'Allemagne. Et elles vont sûrement sortir par une porte honorable, mais réellement, elles sont venues apprendre.
Apprentissage donc compliqué. C'est un début de compétition timide hein, pour les représentants africains dans l'ensemble. Un seul match nul, hein, celui du Nigeria, 0-0 face au Canada. Sinon, rien que des défaites. La Zambie a coulé 5-0 contre le Japon. L'Afrique du Sud, hein, championne d'Afrique en titre, il faut le rappeler, a cru jusqu'à ce qu'elle a cédé dans les derniers instants, battue 2-1 par la Suède. Alors, Élisée, le match nul 0-0 des Super Falcons est quand même héroïque. Il faut le reconnaître.
Oui, il faut le reconnaître, hein. C'est véritablement héroïque, surtout face à une équipe du Canada qui est classée sixième hein, dans le classement FIFA, donc qui est en plein progrès. Les Nigérians ont usé de leur expérience, puisque à ce niveau de la compétition, il faut parler d'expérience. Et vous avez vu le pénalty qui devrait offrir les 3 points aux Canadiens. Ce pénalty a été stoppé par la gardienne de but, vous imaginez. Donc, c'est un peu l'expérience qui a parlé du côté des Nigérians, contrairement à ce qu'on a vu avec les Zambiennes et les Marocaines qui ont connu un apprentissage très difficile. L'Afrique du Sud, qui n'avait pas connu une préparation tourmentée, elle pouvait espérer mieux face à la Suède. Le Nigeria, on espère qu'elle ira au moins au second tour, comme l'a dit Jules, puisqu'on a vu les Camerounais qui n'ont pas pu se qualifier. Donc seul le Nigeria garde le flambeau de l'Afrique et on espère que ce pays pourra se qualifier pour le second tour.
Alors Amdine, justement, la tâche s'annonçait difficile pour les Zambiennes devant les Japonaises et elle a été.
Oui, elle a été. La Zambie va se souvenir de son premier match en Coupe du Monde, hein, puisqu'elles l'ont vraiment perdu. Hein, 5-0 face aux Japonaises, c'est humiliant, il faut le dire. Mais si on regarde, comme vous le dites, comme le doyen l'a dit tantôt, si on regarde quand même la performance de nos représentants, il faut dire que c'est abordable puisque les deux équipes qui ont déjà eu à jouer une Coupe du Monde, que ce soit le Nigeria, 9 participations, l'Afrique du Sud, 2 participations, ils ont tenu quand même la dragée haute à cette formation. Faire un match nul et une défaite, surtout la défaite de l'Afrique du Sud face à la Suède, c'est une défaite honorable, hein, parce que les Sud-Africaines qui sont championnes d'Afrique sont tombées les armes à la main, puisque si on regarde la Suède est vice-championne du monde, la Suède aussi finaliste du Mondial 2003, trois fois troisième, 91, 2011, 2019, médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2016-2020. Vraiment, c'est un monstre que les Sud-Africains avaient en face, et elles n'ont perdu que sur le score de 2-1. Je pense que c'est une bonne performance, mais les deux novices, que ce soit la Zambie et le Maroc, sont passés complètement à côté. Il faut apprendre de ces défaites et se relever le plus vite possible pour pouvoir quand même permettre à l'Afrique de présenter un meilleur visage dans cette Coupe du Monde, Yacouba.
Alors, Jules, parlant justement des Banyana, donc de l'équipe sud-africaine, elles ne sont pas passées très loin du match nul.
Oui, bien sûr. Mais les Sud-Africaines font partie depuis longtemps du top 3 du continent. C'est les équipes qui collent avec les normes mondiales. Elles ont joué un match très difficile contre la Suède, qui quand même est toujours dans le carré d'as, soit de la Coupe du Monde, soit de l'Euro. Donc, c'est pas n'importe quel adversaire, surtout qu'elle représente une zone qui a dominé très longtemps le football féminin, qui est la Scandinavie. Bon, alors là, nous avons donc des Sud-Africaines qui étaient bien préparées et qui ont présenté un beau jeu pendant toute la première mi-temps. Elles ont pratiquement dominé, c'est-à-dire qu'elles ont fait et disons que passer leur style de jeu avant celui de la Suède. C'est la Suède plutôt qui peinait. Mais cela a été couronné par un but à la 48e minute au début de la seconde mi-temps. Mais là encore, c'est un certain manque d'expérience et de concentration qui punit les Sud-Africaines, puisque c'est sur des largesses défensives, c'est-à-dire des hésitations, des problèmes de communication en défenseur, que les Suédois trouvent l'égalisation. Et même le dernier but qui rentre à la 90e minute plus 6, est dû également à une petite faute défensive de marquage sur ce corner où la défenseuse centrale suédoise est montée plus haut que tout le monde. Elle était pratiquement démarquée quand elle est venue frapper le ballon. Donc, en d'autres termes, ce sont des petits détails qui ont fait perdre l'Afrique du Sud, mais elle est maintenant avertie et dans une compétition comme celle-là. Et elle a déjà une allure de semi et favorite dans le groupe, c'est-à-dire d'outsider. Il faudra qu'elle négocie bien les matchs contre l'Argentine et contre l'Italie, qui ne sont pas des fous de guerre en matière de football féminin et qui viendront surtout pour défendre et un peu prendre prendre les Sud-Africaines à contre-pied. Et là, les Sud-Africaines doivent être patientes, très patientes, pour marquer le coup au bon moment et éviter les erreurs du premier match.
La Zambie et l'Afrique du Sud, en tout cas, qui ont l'obligation d'encore de se relancer. Mercredi, les Zambiennes jouent l'Espagne, équipe donc à craindre, et les Sud-Africaines croisent l'Argentine le vendredi. Amine Birouk revient justement sur la production d'ensemble de la Zambie, de l'Afrique du Sud et du Nigeria.
Sur les 12 mois possibles, l'Afrique n'en a enregistré qu'un seul, celui du Nigeria, qui a fait le dos rond pendant 90 minutes face à la sélection canadienne, championne olympique à Tokyo, avec une jolie récompense, le point du nul, qui ouvre de bons horizons pour cette équipe du Nigeria, qui se trouve dans un groupe a priori à la portée. Le Nigeria qui est habitué des joutes mondialistes et qui a déjà réussi à franchir le cap du premier tour. Donc ce ne serait pas un exploit de voir les Falcons au-delà du cap du premier tour. Il faudrait aussi se dire que l'Afrique du Sud a de sérieuses chances et que sa défaite contre la Suède ne doit pas faire rougir toute une nation, la nation arc-en-ciel, puisque 2-1 face aux finalistes des derniers JO, c'est tout sauf déshonorant. Par contre, on peut se poser des questions sur l'avenir de la sélection zambienne, qui a bu aussi la tasse comme le Maroc face au Japon, 5-0, et qui se trouve dans un groupe où l'Espagne et le Japon sont largement au-dessus du lot. Nous mesurons largement la différence qui existe entre le niveau des sélections féminines sur notre continent, et celui des autres nations. Le football féminin a ses quelques fiefs en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Ces pays ont beaucoup investi en formation des joueuses, en formation des cadres. Ces pays ont de très nombreuses longueurs d'avance sur toutes les nations du continent africain. Et aujourd'hui, la CAF doit mettre les bouchées doubles pour envisager devenir concurrentielle dans les prochaines éditions de la Coupe du Monde. Le plan Marshall du football féminin doit se déclencher le plus vite possible parce que le fossé est énorme entre l'Afrique et les autres.
Voilà, le fossé est énorme hein, entre l'Afrique et les autres. Dixit donc Amine Birouk. Alors, Amdine, on a vu ce début de mondial. Des cadors hein, comme les États-Unis se sont imposés 3-0 devant le Vietnam, même si ce n'est pas vraiment un score qui pouvait être largement dépassé. On a vu le Canada aussi accroché, champion olympique, et accroché hein, par le Nigeria. Qu'est-ce que tu penses de la production d'ensemble hein, de ce début de Coupe du Monde?
Tu sais, Yacouba, on est dans les matchs de poule. Et les matchs de poule pour les grandes équipes, ça ne sert pas à grand-chose, sinon à faire une sorte d'entraînement. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer
à partir des huitièmes de finale.
À partir des huitièmes de finale, là où c'est des matchs à éliminatoire directe. Mais, de facto, on peut dire que, pour le moment, ils sont en train de gérer, hein, les grands sont en train de gérer, puisque c'est comme ça. C'est une Coupe du Monde à deux vitesses, puisqu'il y a de grandes équipes, mais il y a des équipes très faibles, comme les deux représentants africains qui sont des novices, qui viennent de découvrir la compétition. Mais attendons après deux, trois matchs de voir les tendances. On va voir les vraies tendances durant les troisièmes matchs et surtout les huitièmes de finale, Yacouba.
Lionel Messi illumine l'Inter Miami. Premier match, premier but et première victoire. À l'aube donc de son aventure avec l'Inter Miami, l'Argentin remplaçant a changé le cours du match en marquant le but victorieux de son équipe 2-1 en Ligue Cup contre la formation mexicaine de Cruz Azul. C'est un début rêvé pour Messi et l'Inter Miami, nous dit Amin Birouk.
C'était une réception digne d'Hollywood pour Lionel Messi lors de ce premier match contre Cruz Azul. Toute la jet set, toutes les grandes stars des autres sports étaient présents pour assister à cette grande première. Et il faut dire que l'Astra argentin n'a pas déçu, marquant un superbe but et livrant une prestation de très très haute tenue face à l'équipe de Cruz Azul. Il faut dire que l'Inter de Miami n'a pas lésiné sur les moyens et elle a su entourer Lionel Messi de joueurs avec lesquels il y a des automatismes du temps du FC Barcelone. Et c'est ce qui devrait se produire toute la saison. Moi, j'envisage la question d'une toute autre façon. Est-ce que finalement, l'arrivée de Lionel Messi va enfin contribuer à populariser davantage le soccer aux États-Unis? On sait que la MLS est un championnat qui est de plus en plus populaire, de plus en plus concurrentiel. D'ailleurs, le champion de la CONCACAF vient des États-Unis, mais ce n'est pas encore le boom escompté. Et il faut aussi se dire qu'il y a eu d'autres tentatives qui datent des années 70, du temps de la défunte NASL, avec l'arrivée de Pelé, de Beckenbauer au Cosmos de New York, celle de Cruyff, celle de George Best, de Giorgio Chinaglia, de grandes stars des années 60 et 70. Et pourtant, culturellement, l'Américain n'a pas réussi à assimiler les rudiments du soccer ni à en faire un sport populaire. Aujourd'hui, le soccer est dans l'ombre des quatre autres disciplines, le basketball, le football américain et le hockey sur glace, en plus du baseball. Et on se demande comment il va avoir sa place au soleil. Est-ce que Lionel Messi est enfin le phénix qui permettra au football de renaître, au soccer, pardon, de renaître de ses cendres? C'est la question que je me pose. En tout cas, sa présence en fait un ambassadeur digne de ce nom. Et l'arrivée d'autres grands noms du football qui pourraient l'entourer, tels que Jordi Alba, que Busquets, que peut-être Iniesta, ne serait pas de trop pour enfin permettre au soccer d'avoir une place privilégiée dans le cœur des Américains.
Voilà, Amine le disait, les stars, hein, LeBron James, Serena Williams et Kim Kardashian, entre autres, hein, n'ont pas manqué d'immortaliser le moment avec leur smartphone. Sergio Busquets a profité du même arrêt de jeu, hein, pour lui aussi faire ses débuts avec Miami. Jules, ça commence bien en tout cas pour les deux ex-coéquipiers au Barça.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est une projection de Barcelone aux États-Unis pour présenter le beau jeu qu'on connaît. Et Messi ne s'est pas déplacé seul, il est là avec ses complices. Et le beau jeu doit attirer le public, doit attirer les publicités et en même temps faire découvrir aux Américains des petits gris-gris peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à voir, comme ce beau coup franc qui a amené le but de Messi, un vrai bijou du pied gauche. Bon, donc, en fait, Messi n'a plus rien à prouver. Il est champion du monde, il est en train de gérer sa fin de carrière et pourvu que ça fasse du bien au football des États-Unis qui le mérite.
Voilà, le football des États-Unis, donc, qui mérite Lionel Messi. Alors, Élisée, ce sera le vrai test pour Messi, et ce, dès demain mardi. L'Inter Miami affronte Atlanta. En championnat, il faut le reconnaître, ça ne va pas. L'Inter Miami est avant-dernier sur 29 équipes. C'est là que commencent les vraies choses.
Bien évidemment. Et on pourra déjà dire, on pourra d'abord se contenter de ces grands débuts. Et il faut le dire, puisque Messi viendra changer de dimension à ce championnat nord-américain de football, vous imaginez. Maintenant, les bonnes choses commencent, puisqu'il y aura des adversaires plus huppés que Cruz Azul, vous imaginez. Mais déjà, avec l'arrivée de Andrés Iniesta au milieu de terrain, il pourra s'appuyer sur le meilleur de jeu qui fut entre-temps au FC Barcelone. Vous voyez, David Beckham est en train de reconstituer cette équipe qui a fait tant de balles au Real Madrid au moment où il était. Et il était joueur des merengues. Donc ça veut dire que cette génération a beaucoup apporté au football et on aimerait qu'une fois aux États-Unis, on pourrait revivre. C'est vrai que l'âge a évolué, mais dans les jambes, il y aura toujours quelque chose. Luis Suarez aussi est à noter. Donc on espère que Messi va permettre à cette équipe Inter Miami de retrouver l'euro du classement.
Football toujours, mais cette fois-ci sur le marché des transferts avec un cas qui fait beaucoup parler, le cas Kylian Mbappé. Les propositions des grands de l'Europe arrivent sur le bureau du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Alors, Amdine Sy, c'est clair, prolonger pour le président du PSG ou bien partir dès cet été. Qu'est-ce que vous pensez de cette équation qui s'offre à Kylian Mbappé?
D'abord, on est en train de vivre un bras de fer entre la direction du club de la capitale française et le clan de Mbappé, ce qui a valu à Mbappé d'être écarté pour le tournoi de la pré-saison que le Paris est en train de faire. Mais les choses sont très claires. La direction du club de la capitale a donné à Mbappé jusqu'au 31 juillet pour activer sa clause de prolongation d'une saison. S'il ne le fait pas, le Paris Saint-Germain est obligé de le vendre. Puisque s'il ne le vend pas, Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain gratuitement en 2024. Maintenant, le problème, c'est Mbappé. Mbappé, on ne comprend pas ce qui se passe. Soit il part cette saison. Mais tout cela, c'est à cause de la faiblesse des dirigeants du Paris Saint-Germain. Ils avaient la possibilité de régler ce problème depuis l'année dernière. Mais au lieu de régler ce problème, ils l'ont déplacé. Et cela a abouti à ce que nous sommes en train de vivre. En tout cas, je pense que Mbappé, un grand joueur qui fait rêver, qui aime le Paris Saint-Germain, c'est pourquoi il avait quitté Monaco pour revenir au niveau du Paris Saint-Germain, parce que c'est un enfant de la banlieue parisienne, il est né à Bondy. Donc, il disait qu'il aimait le Paris Saint-Germain, mais comme on dit, que ce soit les joueurs et les clubs, c'est comme les États, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, Yacouba.
Alors, Jules, très rapidement, on sait qu'il y a le Real qui se positionne, il y a Chelsea qui a annoncé, Manchester United, Tottenham, il y a même Al Hilal d'Arabie Saoudite. Le choix peut-être ne pose pas problème à Mbappé.
Oui, non, nul n'ignore la volonté de Kylian de rejoindre le Real ce qui est devenu un secret de polichinelle. Bon, mais ici, le départ de Benzema éclaircit un peu plus l'horizon vers cette hypothèse, dans la mesure où il le remplacerait numériquement et trouverait bien sûr très, très rapidement la cohésion avec les joueurs brésiliens très intelligents comme Vinicius Junior et probablement avec l'entraîneur Ancelotti. Mais attention, un joueur qui arrive sur un nouveau terrain, c'est une nouvelle expérience. Il ne faudrait pas que Mbappé tombe dans le syndrome Eden Hazard qui était parti avec toutes les espérances, mais qui a fait un véritable flop.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules Valentin Ngoué. Merci à Amdine Sia, Élisée Mpatine, Sourama qui s'achève ici. Merci à Firmin Max Kouyaouida qui a réalisé cette émission présentée par Yacouba Ouédraogo. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Dili Diko. Au revoir.